Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Dans cet épisode, je reçois Axel Paris, un jeune entrepreneur encore étudiant mais qui gagne sa vie sur internet grâce à ses formations en ligne pour apprendre notamment le design ou le développement. Ce que j'admire chez Axel, c'est qu'il s'est lancé hyper tôt et qu'il est la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Du coup, dans cet épisode, il va nous expliquer comment créer son auto-entreprise quand on a moins de 18 ans, mais on parlera aussi et surtout de productivité ou encore des doutes auxquels on peut faire face quand on crée son entreprise. Donc si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur la plateforme que vous utilisez. Et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange avec Axel. Salut Axel, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui sur un nouvel épisode du podcast. Est-ce que dans un premier temps, avant qu'on rentre dans des sujets plus ou moins profonds, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter en quelques lignes, nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ?
Yes, bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Axel, je suis actuellement, donc pour résumer entre guillemets, je suis toujours dans mes études, je suis en quatrième année en école d'informatique et à côté depuis 4-5 ans j'ai une activité de slasher on va dire, et en gros dans cette activité de slasher j'intègre principalement, donc on va faire de la formation en ligne, enfin je vais faire de la formation en ligne, des vidéos sur YouTube. Donc les vidéos sur YouTube regroupent plusieurs autres petites activités, notamment de l'affiliation, je vais faire du sponsoring, donc l'activité de créateur de contenu en soi, je vais vendre des petits produits numériques, et donc toutes ces activités là vont un peu se merger dans la thématique YouTube. Voilà, en plus de la formation en ligne. Et des fois, je fais un petit peu de freelance. En fait, je suis un petit peu touche à tout. J'ai commencé donc par le développement web à la base. Et en fait, j'ai un petit peu dévié, comme je suis un peu passionné par tout ce qui va être, comment dire, entrepreneuriat, micro-entreprise, un petit peu de fiscalité. J'aime bien un petit peu tous ces sujets, même aussi un peu de design. Donc voilà, en fait, on fait un petit mélange de tout ça, une petite tambouille, et ça me donne moi, Axel.
Ok, super. Je pense qu'effectivement, on aura pas mal de choses à aborder durant cet épisode. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'épisode de tes études, donc qui n'est pas fini ou il est bientôt fini. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes études, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?
Yes, alors du coup moi je fais mes études sur Bordeaux, dans une école qui s'appelle Innov Informatique, donc c'est une école sur 5 ans pour obtenir un diplôme Bac plus 5 en tant que, alors je crois que le titre c'est ingénieur informatique, c'est expert des systèmes d'information, quelque chose comme ça, mais en gros ça vous permet d'être développeur web à la fin. Donc moi ce que je trouvais pas mal dans ce cursus là, c'est que j'avais mes deux premières années qui étaient en demi-journée, donc je travaillais soit le matin soit l'après-midi, et le reste du temps c'était du temps de libre, et donc ça m'a permis vraiment de gagner beaucoup de temps sur mes activités. Donc le temps que j'avais de dispo, c'était du temps que je passais, pour ce cas-là, c'est du temps que je passais à créer des formations sur la plateforme Udemy. Et donc, j'ai pu travailler sur ces points-là. J'ai eu la chance de travailler beaucoup sur ces points-là. Alors que je savais que si j'étais en... Si j'avais été en école, en école prépa ou des trucs comme ça, avec du coup un temps complet, j'aurais jamais eu le temps de faire autant de choses que j'ai pu faire dans mon activité d'entrepreneur. Et donc, forcément, ça m'a fait gagner vachement de temps. Et le truc, c'est que dès le début de la troisième année, j'ai dû rentrer en alternance pour continuer mon cursus, pour valider avec l'expérience professionnelle. Et donc, depuis que j'ai l'alternance, j'ai beaucoup moins de temps. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de gérer le temps associé à ces projets. Mais du coup, je fais ça là depuis 2 ans. Et il va me rester encore une dernière année en alternance à terminer pour finir mes études.
Ok, et ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis là, c'est que tu as choisi tes études en fonction justement, j'allais dire en fonction de la charge de travail, oui et non, mais tu as surtout choisi tes études en fonction de ce qu'elles te permettaient de faire à côté. À quel moment t'es venu ce déclic, on va dire, de créer une entreprise ? À quel moment, donc, je crois que t'as commencé par les formations en ligne, hein, c'est vraiment là que t'as... on va dire que c'est ta première expérience dans le monde de l'entrepreneuriat. Justement, donc, à quel moment t'as eu ce déclic de te dire « je vais pas vraiment suivre un cursus classique, 5 années d'études, puis un job classique dans une entreprise ?» Et justement, à partir du moment où tu as eu ce déclic-là, comment tu as fait pour gérer ces différents projets et comment tu as fait pour te lancer ?
En fait, initialement, donc moi j'ai appris le code au lycée. En fait, c'est quand j'ai vu un ami qui avait son petit site. Alors, pour l'histoire, c'est un ami qui avait un site qui s'appelait Liste de serveurs Minecraft. Et quand je lui demandais pourquoi est-ce qu'il a fait ça, qu'est-ce que ça lui a apporté, en fait, lui il m'a dit que c'était clairement pour la thune et que c'était un site qui, en fait, il louait un petit emplacement en haut de son site et ça lui permettait de gagner entre 300 et 400 euros par mois. Donc, je trouvais juste l'idée géniale. Et donc, alors c'est un peu négatif de dire ça, mais en gros, c'est un peu pour l'argent que j'ai démarré à faire ça, j'ai démarré le code. Et puis au final, c'est plus la passion qui est forcément venue derrière, parce que forcément, quand vous passez 3, 4, 5, 10 heures par jour à faire du code, au bout d'un moment, il faut que ce soit la passion, parce qu'après, sinon, la motivation de l'argent ne suffit plus. J'étais motivé vachement par le code, le côté très logique du dev, donc, que j'ai vachement apprécié. Là, c'était pendant mes années de lycée. Et en fait, à la fin de mes années de lycée, la question c'était est-ce que je faisais une école un peu comme tout le monde, prépa, MPSI, PTSI, un truc très scolaire, ou est-ce que je faisais une école spécialisée, une école de commerce, ou est-ce que je faisais un DUT. En fait, j'avais plein de possibilités. Il y avait par exemple le DUT MMI qui était une possibilité aussi. Et en fait, on a plein de choix à ce moment-là, et du coup je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Mes parents étaient vraiment en mode fais une prépa, comme ça tu auras des écoles derrière, comme ça tu seras ingénieur, enfin la voie classique je pense pour tous les jeunes 20 ans un peu ce type là. Je pense que d'ailleurs ça a été ton cas, je pense que toi aussi il me semble que toi t'as fait une école d'ingé juste après ton bac, non?
Ouais, alors moi je suis passé par la prépa, donc effectivement comme tu dis, je peux confirmer, hein, les deux années de prépa au niveau de vie sociale et des projets perso, on oublie un peu, mais ouais, moi je suis passé par une prépa et après l'école d'ingé.
C'est ça, en fait ça me faisait vachement peur de me dire, en fait quand j'entendais parler des gens qui justement étaient dans ce cursus là, ils me disaient, vous dites adieu à votre vie sociale, vous passez deux ans, même les samedis, en fait moi ce qui me faisait le plus peur, c'était, ils me disaient, même le samedi il y a des heures de call, enfin des sessions de call, je sais pas comment on sait, moi ça me faisait super flipper, j'avais pas envie de passer mon temps à être à l'école et tout ça. Et surtout qu'en plus, donc à côté, j'apprenais le code et je voyais des gens qui commençaient à se lancer en freelance. Alors freelance, c'était un bien gros mot parce que à l'époque, les gens que je connaissais qui faisaient un peu de code pour des clients, ils vendaient des sites pour quelques centaines d'euros et moi, je commençais à vite fait en vendre pour 30-40 euros. Donc voilà, c'était juste ridicule. Mais déjà, j'avais déjà un peu cette envie de vouloir travailler un peu pour les autres et être dépendant de ce que je gagne en fait. J'avais envie de pouvoir me dire, j'étais responsable, voilà, de mon succès ou de mes échecs. Et du coup, ça, je sais qu'on l'a moins dans le salariat. En tout cas, à cette époque-là, j'avais vraiment cette impression-là. Plutôt que dans l'entrepreneuriat, c'est très lié à son envie, aux décisions qu'on prend, etc. Donc ça m'attirait beaucoup plus sur ce point-là. Et donc, j'avais envie de me libérer du temps. Et je sais que le DUT, je pense, aurait été une bonne solution pour me libérer un peu de temps, même si c'était quand même du 8h à 18h. Et en fait, c'est un ami qui m'a parlé de cette école, qui m'a dit, les deux premières années, c'est en demi-journée. Et c'est vrai que ça m'a quand même séduit, parce que je me suis dit, j'ai quand même plus de temps pour faire des projets. Et comme j'avais ma chaîne YouTube à ce moment-là, que je commençais à faire des vidéos sur du design, j'avais un ami youtubeur qui s'appelle PrimeFX, donc maintenant je pense que les gens qui écoutent ce podcast doivent forcément le connaître, qui avait lancé sa première formation sur Udemy. Et donc j'avais demandé quelques retours sur ce qu'il en pensait de la plateforme, est-ce que c'est bien d'être formateur dessus, est-ce que les revenus au fur et à mesure du temps, est-ce que ça va ou est-ce que ça s'écrase. Et il me disait que finalement c'était une très bonne opportunité, puisqu'en fait vous faites votre formation et au fur et à mesure des mois, normalement c'est votre formation une bonne qualité, eh bien vous avez des revenus qui sont constants, voire croissants. Ça dépend évidemment de la qualité de votre contenu. Si c'est vraiment un contenu qui est mauvais, vous aurez assez peu de ventes. Mais au final, si vous faites un truc bien, sur le temps, ça va perdurer. Et donc, ça m'a vachement séduit. Donc, j'ai testé, j'ai fait une première formation dessus. Ça a plutôt bien marché. J'en ai fait une deuxième. Et en fait, voilà, j'ai profité vraiment de ces deux ans. J'ai fait une pause de YouTube. Et pendant deux ans, je me suis vraiment focus sur le design sur Udemy. Et donc, j'ai charbonné, j'ai dû en faire je pense une dizaine ou une quinzaine de formations. Alors j'ai testé pas mal de stratégies, j'ai testé des formations, peut-être qu'on en reparlera un peu plus en détail, la stratégie Udemy, mais j'ai testé des formations par exemple axées sur l'affiliation qui ne marche absolument pas. J'ai testé des formations en mode formation complète pour débutants qui marchent très très bien, et d'autres formations plus nichées, par exemple comment faire un paiement PayPal et Stripe en PHP sur Udemy, quoi, un peu en mode cas pratique. Et ça, ça marche moins bien, beaucoup moins bien que les formations débutantes. Mais voilà. Voilà, du coup, je sais plus si ça répond à peu près à ta question sur que tu m'as posée juste avant.
ouais, tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, tu as t'as directement, en fait, dès la sortie du lycée ou même avant, tu t'étais dit je ne veux pas corréler mon temps à mes revenus. Et je pense que tu nous parles de Udemy, donc c'est de la vente de formation. Je pense que quand tu t'es lancé, tu avais déjà cette optique de te dire je vais créer quelque chose une fois et je vais générer des revenus passifs, entre guillemets. Alors pour moi, passif, c'est pas gagner de l'argent sans rien faire, c'est le fait de gagner de l'argent de manière décorrélée par rapport au temps qu'on passe à travailler. Et est-ce que pour toi, c'était vraiment quelque chose que tu avais en tête, ou au contraire, tu t'es lancé là-dedans et après tu t'es dit « Ah bah tiens, je me rends compte que je peux générer des revenus entre guillemets passifs ». Est-ce que tu l'as fait pour les revenus passifs, ou est-ce que au contraire, tu t'es dit « ça a l'air intéressant » et ensuite tu t'es rendu compte du pouvoir que ça pouvait apporter ?
Je pense qu'à l'initial, j'avais pas encore cette vision très entrepreneuriale, donc forcément j'avais pas cette vision de ce que c'était qu'un passif, un actif. Je parle de la vision globale, même justement ce que c'était par exemple un revenu passif et un revenu où justement on liait son temps avec l'argent. Maintenant il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Par exemple, je sais que maintenant, même en lançant du service, on peut avoir des activités qui sont très lucratives. J'ai des amis qui justement ne font pas de passif parce qu'ils préfèrent se concentrer sur le fait de développer leur comment dire leur image de marque, et du coup ça leur permet de monter leur prix, et donc leurs prestations sont plus chères, et donc au final ils arrivent à avoir des très bons mois, même des meilleurs mois que moi bien sûr, parce que moi je fais du passif plutôt que eux font de l'actif. Et donc en fait à l'initial j'avais pas du tout cette vision là, et je pense que c'est un peu ce que tu m'as dit dans le deuxième cas, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure je me suis rendu compte que waouh, c'est passif, et en fait waouh, j'ai lancé cette formation il y a 6 mois, et ben tiens, elle vend encore. Et en fait, ouais, c'est carrément en fait cette deuxième option, parce que je me souviens très bien à certains moments où je me disais « Putain, c'est incroyable, je n'ai rien fait sur cette formation depuis plusieurs mois et elle continue de vendre, et même elle vend mieux que quand je l'ai lancée, quand j'ai fini de la faire il y a un an, quoi. » Et je sais que c'est un sentiment qui est quand même très bizarre, parce que à la fois, on est quand même très content de se dire « Waouh, ça marche et tout », et en fait, ça vous permet... Enfin, ça casse un truc dans la tête en se disant l'argent il est compliqué à gagner, ou alors il est lié au mérite, alors que c'est pas du tout le cas. L'argent n'est pas lié au mérite, il n'est pas lié au travail que vous fournissez, il est lié à, je pense, à l'impact que vous avez proportionnellement. C'est très compliqué à, comment dire, expliquer, mais c'est vrai que c'est un sentiment très spécial. En fait, ma relation avec l'argent, c'est vraiment construit avec mon aventure entrepreneuriale, et je sais que si j'avais pas été entrepreneur de base, j'aurais une relation totalement différente avec l'argent. Je pense que j'aurais une relation beaucoup plus émotionnelle. Là, actuellement, en fait, je peux vous donner un exemple, hein. Si par exemple, je fais un mois, imaginons, à 2000 euros, et je fais un autre mois à 5000 euros, et ben, en fait, dans ma tête, juste me dire, bon, ben, c'est cool, j'ai fait un mois à 5000 euros, mais ce sera rien de plus que ça, en fait. Alors que, par exemple, quelqu'un qui sera salarié, qui va avoir une prime de 3000 euros, lui, ça va être vraiment la fête, ça va être incroyable. Il va se dire, waouh, je vais partir en vacances et tout. Pour moi, ça change pas grand chose. Et du coup, voilà, ça a un peu développé ce sentiment-là, enfin, cette différence-là, l'entrepreneuriat chez moi. Je sais pas si toi aussi, t'as un peu cette réflexion, peut-être.
Ouais, tout à fait. Et effectivement, quand tu me dis je peux faire un mois à 2000 et un autre mois à 5000, ok, c'est bien. En fait, je pense que ça vient surtout du fait que ça fait déjà plusieurs mois que t'es entrepreneur, et que ton activité, elle a été croissante à certains moments, et surtout elle a été décroissante à certains moments. Ce qui fait que avoir un résultat assez exceptionnel ce mois-ci, bon, tu gardes la tête froide parce que tu sais très bien que peut-être pas le mois prochain, mais peut-être le mois d'après, ça peut être, on peut revenir à des sommes très terre-à-terre, voire même dérisoires. Et ce qui fait que tu te dis, bon, ok, en fait, les 5000 euros que j'ai gagnés là, bah, peut-être qu'il va falloir les lisser sur 3-4 mois parce que, en fonction de mes résultats, je sais que c'est pas du tout constant. Mais effectivement, c'est quelque chose que moi aussi j'ai ressenti. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu, enfin, comment t'as fait, comment t'as fait pour générer tes premiers revenus, ça on le sait, mais quel moment tu as lancé ton auto-entreprise et au bout de combien de temps tu as pu générer tes premiers revenus sans forcément en vivre, mais générer tes premières dizaines voire centaines d'euros?
Alors, quand je me suis créé, alors la toute première démarche administrative, c'était vraiment il y a longtemps parce que je l'avais faite à 16 ans. Donc c'était vraiment il y a longtemps, hein, ça doit faire 5 ans, ouais c'est ça. Donc j'avais créé ma micro-entreprise initialement avec la forme juridique d'une EIRL. Donc si vous avez entre 16 et 18 ans, si vous voulez devenir micro-entrepreneur, il faudra donc créer votre micro-entreprise avec l'option EIRL parce que sinon vous ne pourrez pas en fait créer votre statut de micro-entrepreneur, il faudra obligatoirement être majeur. Donc c'est la seule option pour pouvoir créer votre statut. Et donc du coup j'avais fait ça initialement. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a l'aide fiscale de l'ACRE qu'on peut avoir quand on a entre 18 et 25 ans. Et comme moi j'étais trop jeune, et ben en fait j'avais pas cette aide à 16 ans. Et ben du coup, j'ai fait pendant 2 ans de mini activité, donc j'ai pas gagné grand chose, puisqu'en fait c'était vraiment le lancement, j'ai testé pas mal de choses. Et en fait, quand j'ai eu 18 ans, ben j'ai radié ma micro-entreprise, donc en fait je l'ai arrêtée et je l'ai refaite en demandant l'ACRE. Et du coup, pendant 3 ans, ben j'ai bénéficié de l'ACRE à ce moment-là. Donc là, du coup, j'étais très content parce que c'était encore la période où on avait 3 ans d'ACRE à 25, 50 et 75%. Donc c'était très, très progressif, donc là c'était vraiment cool. Et donc pour répondre à ta question sur comment est-ce que j'ai fait mes premiers sous, alors mes tout premiers sous sur internet, ça a été, je crois que ça a été les revenus YouTube, mais vraiment il y a longtemps, donc c'est quand j'ai lancé ma chaîne, et peut-être que les premiers paiements YouTube c'était de l'ordre de 3-4 $, donc c'était vraiment ridicule. Et après c'est devenu un peu progressivement avec les prestations de services. Donc là j'avais vendu quelques sites web c'était combien, 50 ou 60 euros. Donc c'était ancienne époque où je codais moi-même en HTML, CSS les sites web, donc j'utilisais même pas de framework, c'était vraiment from scratch. Donc autant vous dire la qualité du code à maintenir derrière, c'est juste impossible, mais c'était quand même très très sympa à faire. Et donc du coup voilà, je commençais un peu à monter en gamme à ce niveau là jusqu'à faire une prestation de site pour quelqu'un à qui j'avais vendu 500 euros. Donc pour moi c'est les premiers 500 euros que j'ai vendu à quelqu'un. Donc là, ça représentait à peu près un mois de travail. Et pour moi, c'était vraiment énorme parce que c'était wow, 500 euros quoi. Vous dites, vous êtes étudiant à 17 ans, vous avez gagné 700 euros. Enfin, 500 euros, c'est quand même assez ouf. Et justement, là, c'est quand je suis rentré sur mon école sur Bordeaux. Je me suis dit que c'était cool, mais en fait, quand vous arrêtez de faire de la prestation, eh bien, vous arrêtez en fait d'avoir des revenus. Donc moi, clairement, ça ne me plaisait pas trop et je voulais vraiment avoir ce côté passif, c'est-à-dire, comme tu disais, hein, dissocier son temps de l'argent qu'on va générer. Et comme je faisais déjà des vidéos sur YouTube que les gens aimaient bien et que j'aimais bien le design, bah, je me suis dit, vas-y, je vais lancer une formation sur Udemy justement avec le retour de Boris de PrimeFX. Et donc, j'ai fait ma première formation, je vois que ça marche, je vois que les semaines d'après, sans rien faire, eh bien, ça continue de marcher, donc j'en fais d'autres. Donc là, après, Udemy commence à vraiment bien marcher, donc ça devient ma source principale. Donc en moyenne, sur les 2 ans, je crois que j'ai dû faire peut-être 1000, 1200 euros par mois, un truc comme ça. Donc voilà, avec cotisation sociale enlevée, en gros on arrive sur du 1000 euros par mois à peu près pendant 2 ans, et maintenant ça correspond à du 1000-1400, donc ça reste assez constant, c'est entre 1000 et 1500, donc c'est vraiment très très cool, je suis très content de ce passif justement. Et donc du coup, donc c'était cool parce que du coup j'avais ce passif qui était généré, mais d'un autre côté, quand Udemy allait pas bien, c'est-à-dire que si par exemple je faisais un mauvais mois ou que j'avais pas beaucoup de cours, et donc des fois en fait quand on a peu de cours, forcément, c'est si vous avez un cours qui marche moins bien, que vous avez des mauvaises notes, et bien vous allez faire moins de ventes. Donc moi, mon premier focus déjà, c'était de me diversifier sur Udemy et donc du coup de créer beaucoup de cours. Donc pendant 2 ans, j'ai fait ça. Donc ça m'a permis du coup de stabiliser mes revenus et maintenant, je ne descends plus en dessous de 1400 dollars parce que justement, j'ai beaucoup de cours et donc ça me permet en moyenne d'avoir toujours ces revenus. Et donc je me suis dit, ça c'était cool, mais par contre, si Udemy à un moment change leur politique de prix ou quoi que ce soit d'autre, ils me bannissent et je sais pas, ils me donnent des strikes, j'en sais rien. Eh bien, je l'ai un peu dans l'os et donc du coup, j'ai plus de source de revenus passifs. Et donc, c'est là où je me suis dit, vas-y, je vais essayer de changer ça. Donc, j'ai essayé de lancer pas mal de projets, j'ai essayé de lancer des sites, j'ai essayé de lancer des sites avec de l'affiliation. Mais le problème sur internet, et je pense que Quentin, tu seras aussi le premier à me dire, c'est à le confirmer, c'est que générer du trafic, c'est très compliqué et je pense que c'est la pour moi, c'est la plus grosse problématique, c'est quand on lance un projet, c'est de générer du trafic, générer de l'intérêt pour que les gens ont pour votre projet. Ça, c'est super dur. Et donc, ouais, c'est super dur. Alors qu'on a une chaîne YouTube, c'est différent parce que chaîne YouTube, ça permet d'être vachement exposé. Et donc, c'est pour ça que moi, je me concentre. Ce que je faisais, c'était... Donc, j'avais lancé des projets. Et du coup, finalement, je me suis dit, je vais me reconcentrer sur ma chaîne YouTube principale parce qu'en fait, c'était là où j'avais vraiment de l'exposition. C'était là où on pouvait se faire découvrir. C'est sur cette plateforme où on peut se faire suggérer. En fait, le reach sur YouTube, il est assez important. On peut facilement se faire découvrir. Et moi, j'étais assez facilement découvrable, entre guillemets, par les mots-clés, par le moteur de recherche. Donc comme c'était quelque chose qui marchait assez bien et que je sais assez bien faire des vidéos qui se référencent bien, je m'étais dit c'est parti, je vais me relancer sur YouTube. Et donc depuis que je suis en alternance, en fait, j'ai commencé à refaire des vidéos, je parle de micro-entrepreneuriat, plus récemment un peu de finances personnelles et tout ça. Et en fait, j'ai attaqué cette reprise YouTube avec un objectif qui est de me créer des revenus passifs. Donc déjà, premier objectif, pourquoi est-ce que je parle de ces sujets-là ? Donc pourquoi est-ce que je parle de la micro-entreprise, des finances personnelles, etc. Déjà parce que c'est un sujet qui marche bien sur YouTube et qui est bien rémunérateur. Donc déjà, en termes de YouTube money, on va dire, les revenus publicitaires, on va avoir des annonceurs qui vont payer plus cher parce que souvent, c'est des gens qui vont vouloir vendre des cours en dropshipping, des trucs comme ça. Donc ils peuvent se permettre de dépenser plus cher la publicité que pour Perse qui veulent vendre des couches à 2,50€. Et donc déjà, rien que ça vous permet d'augmenter votre RPM, votre revenu pour 1000 vues. Et donc moi, j'ai un RPM entre, je crois, c'est 10 ou 11€, alors que la plupart des youtubeurs, c'est, je crois, de l'ordre de 3-4€ quand on est un youtubeur, on va dire, divertissement. Je sais pas si t'as ton chiffre en tête, toi, Quentin, de RPM.
Ouais, c'est ça. Moi, je crois que c'est... moi, il me semble qu'il est un peu plus important, effectivement, que la moyenne. Je crois qu'on est à 6 ou 7, voire un peu 8 de temps en temps sur certaines vidéos. Mais effectivement, un RPM de 10, c'est quand même... assez extraordinaire, ouais.
Ouais, bah en fait, justement, toi, t'as la chance aussi d'avoir une chaîne qui parle d'entrepreneuriat, et donc les sujets entrepreneuriat, business, où tu parles des fois un petit peu d'argent, le développement web commence aussi à bien monter niveau RPM, c'est des sujets qui commencent à bien marcher, et donc aussi, ça augmente ses revenus, alors que si vous parlez de produits de beauté, là, vous n'allez pas avoir un gros CPM, enfin RPM, ça c'est sûr. Et donc ça, c'était le premier objectif, c'était de trouver déjà un sujet, déjà la première chose, bien sûr, il faut que ce soit un sujet où j'ai des choses à raconter et qui me passionnent, et ensuite qui soit bien rémunérateur, et ensuite derrière, c'est comment est-ce que je peux monétiser ce canal là. Donc c'est par plusieurs biais. Le premier que j'ai voulu explorer, mais en fait c'était un peu par hasard, puisque j'avais fait un tweet en disant je prépare une vidéo sur la micro-entreprise, est-ce que vous avez des conseils, ou est-ce que vous avez envie que je parle d'un sujet en particulier. Et Shine, donc la banque banque en ligne, qui m'a contacté en me disant est-ce que tu aimerais faire une vidéo sponsorisée avec nous. Et du coup, moi, j'étais déjà client chez eux, donc c'était avec grand plaisir. Et donc, j'ai mis un lien affilié dans ma vidéo. Et cette vidéo a très bien marché, l'affiliation a très bien marché. Et aujourd'hui, c'est une affiliation qui me rapporte entre 500 et 800€ par mois. Donc, c'est quand même très, très correct, juste avec quasiment une seule vidéo. Et du coup, je me suis dit, waouh, l'affiliation, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, j'ai voulu refaire de l'affiliation, donc je l'ai refait avec d'autres programmes, notamment Freebie, qui permet de faire de la comptabilité quand on est micro-entrepreneur. Et après, je vais avoir d'autres petits programmes d'affiliation. Et après, j'ai voulu explorer encore d'autres choses. Donc, j'ai exploré aussi les vidéos sponsorisées. Peut-être qu'on aura l'occasion un peu plus tard d'en parler dans le podcast. Donc, c'est-à-dire que là, je prends un forfait fixe pour parler de la marque dans la vidéo. Et l'avantage, c'est que du coup, j'aime bien un peu ce côté prendre un forfait fixe, parce que au moins, c'est un peu, ça rejoint l'expression, j'ai plus le terme, mais je crois que c'est vaut mieux un que deux tu l'auras. Je crois que c'est ça. C'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Est-ce que tu connaissais cette expression ?
Ça me dit quelque chose, mais oui, effectivement, je vois, je comprends l'expression,
ouais. Ouais, donc pour ceux qui comprennent pas trop, en gros, ça veut dire il vaut mieux avoir quelque chose de peut-être un peu moins gros, et au moins t'es sûr de l'avoir, que peut-être c'est un projet qui va marcher dans le temps, mais il va rien se passer. Et ça, c'est un peu le cas avec tous les gens qui veulent s'associer pour faire des startups, des trucs comme ça. Si vous êtes développeur et quelqu'un vous dit « Waouh, j'ai une super idée de projet, on fait 50-50 », je vous dis, calmez-vous, parce que si le projet il est naze, ou que le projet marche pas, ou que la personne du coup elle se démotive, tout ça, vous aurez travaillé pour rien. Et du coup, souvent, c'est quand même beaucoup plus intéressant en tant que développeur que le porteur de projet vous paye vous en tant que développeur, parce que vous, votre temps de travail, forcément, il a une valeur, quoi. Il est vous avez besoin de vivre aussi, donc il faut que vous soyez payé. Et moi je pense que c'est quand même mieux quand vous lancez un projet avec quelqu'un d'être payé à l'heure. Alors forcément, si vous êtes si c'est un projet entrepreneurial entre potes, ben, vous pouvez pas vous payer chacun. Mais si c'est quelqu'un que vous connaissez pas et qui veut vous recruter et qui vous dit ouais, t'auras des parts dans la boîte, moi je vous recommande pas trop de faire ça et plutôt vous faire payer en prestation. À la limite, faire un mix entre les deux, faire prestation et départ, mais vous faites pas, passez pas 3 mois à développer un produit où il y aura que vous et un mec qui aura juste eu l'idée, parce que c'est sûr, c'est quasiment jouer à l'échec. En tout cas, moi, c'est ma vision que j'ai sur le projet. Je sais pas si toi, t'es un peu pareil, je pense aussi.
C'est vrai que moi aussi, côté YouTube, effectivement, moi aussi j'ai cette vision des revenus passifs, et c'est vrai que c'est toujours assez difficile de gérer entre les partenariats one shot et les partenariats d'affiliation, parce que comme tu le dis, les partenariats d'affiliation, c'est quelque chose qu'on met en place qui demande quand même pas mal de temps, pas mal d'investissement, parce que on en fait la promotion une fois, deux fois, trois fois. En général, une fois, c'est pas suffisant, parce que voilà, en fonction de la vidéo qui marche, peut-être qu'on va en parler dans une vidéo et que cette première vidéo ne va pas marcher. Et donc voilà, c'est vrai que moi aussi, j'essaye toujours de gérer entre le fait quand même d'avoir un minimum de revenus grâce à YouTube et une stratégie sur le long terme. Et justement, toi, donc t'as lancé tes premières formations, en même temps, t'avais la chaîne YouTube qui commençait à bien marcher. On voit que t'as également des partenariats d'affiliation. Donc, on sent que ça commence à bien marcher, mais je suppose que ça n'a pas été toujours tout beau, tout rose. Et effectivement, on a tendance à ne pas trop en parler parce que... Je sais pas pourquoi, ça dépend des personnes, mais par exemple, des profils entrepreneurs, c'est vrai qu'on a souvent tendance à mettre en valeur nos réussites parce qu'on se concentre là-dessus. Et les échecs, on apprend de nos échecs et puis après, on va de l'avant. Mais est-ce que... je te pose la question, mais je pense que la réponse est oui. Est-ce que tu as eu des moments de doute où tu t'es dit, là, par exemple, mes formations n'ont plus trop marché, qu'est-ce que je vais faire, mes revenus passifs, là, a priori, je peux pas vraiment jouer dessus parce que c'est quelque chose, c'est un peu un arbre que tu as planté. Et comment tu as réagi quand tu as senti que cet arbre commençait à ne plus trop grandir, voire même que tu as vu quelques feuilles faner?
Ouais, déjà pour répondre à ce que tu me disais sur est-ce que je doute, clairement je doute tout le temps, c'est tous les jours et c'est limite toutes les heures parce que j'ai toujours plein de problématiques et qu'on voit pas forcément sur la surface parce que forcément j'ai pas trop en parler, mais c'est vrai que il y a tout le temps des doutes sur moi. Ce qui me pose le plus problème, c'est la cohérence, tu vois. J'ai besoin d'avoir un truc propre, clean, cohérent, et mon esprit fait comme ça, et pourtant les projets que je fais dans le concret, c'est beaucoup moins cohérent. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que mes miniatures YouTube, elles n'ont pas de cohérence, par exemple, ou alors que la structure de mes vidéos va être à chaque fois différente. Peut-être que des fois je vais dire salut à tous, des fois je vais vous voyer, des fois je vais tutoyer, et en fait, alors ça c'est vraiment des détails, mais pour moi c'est un manque de cohérence, et moi ça me fusille parce que j'ai vraiment envie de faire un truc propre et que les gens se disent waouh, ce mec est pro, j'arrive pas à le faire, tout simplement parce qu'à chaque fois j'ai envie de refaire un truc bien, des fois j'ai envie de tester des trucs. Et du coup, c'est pour moi, ça, c'est un doute, c'est une problématique qui est très actuelle. Donc, j'ai pas encore de solution à ça. Hein, ça, c'est une grosse problématique. Concernant l'arbre, justement, que j'ai planté sur les revenus passifs, moi, j'ai la chance quand même d'avoir fait en sorte de faire toujours des choix qui me permettent. D'ajouter toujours une branche, et que la plupart des branches que j'ai dans mon arbre ne soient jamais fragilisées, en tout cas très peu fragilisées. Je prends l'exemple par exemple d'Udemy, où je sais en fait que par exemple sur le mois de novembre je vais avoir des très bons mois, que les mois de janvier, février, tout ça va être des mois un peu moins bien. Donc ça je sais que ce sera un peu moins bien, donc moi je les considère pas comme étant des branches qui s'affaiblissent, parce que c'est juste un constat. C'est juste que le mois de novembre c'est Black Friday et Cyber Monday, donc il y a de grosses promotions, donc je sais que les mois d'après, je vais gagner un petit peu moins. Je me dis que c'est pas très grave. Pour moi, c'est pas une anomalie, tu vois. Par contre, il y a des fois où justement il y a des anomalies, où des fois j'avais un programme d'affiliation qui marchait bien et du coup il marche moins bien. Franchement, c'est arrivé très peu parce que j'ai pas beaucoup de programmes d'affiliation, et en vrai, ce qui marche le mieux pour moi, c'est donc le programme d'affiliation Shine. Je vais avoir les revenus Udemy, et en fait, le fait d'avoir plusieurs niveaux, enfin plusieurs sources de revenus, en fait, plus vous additionnez des sources de revenus, plus vous gagnez gagner en, comment dire, en tranquillité d'esprit. Et c'est ce que j'ai fait en fait en 2020. En 2020, j'ai augmenté ce nombre de lignes que j'ai, en fait, de nombre de sources de revenus. Et juste ça, ça m'a donné un calme, en fait, totalement au niveau de mon activité, parce que je me dis, bon, bah, s'il y en a une qui marche moins bien, bah, c'est pas grave, il y en a toujours les autres, et puis après, je pourrais appuyer sur les autres si vraiment je vais pas bien, ou alors je pourrais en ajouter de nouvelles. Et en fait, c'est ça qui me permet d'être très à l'aise avec mon activité. Donc du coup, je suis assez content parce qu'en fait, l'arbre, il est pas, il n'y a pas une branche qui dépend d'une autre, tu vois. La plupart des branches que j'ai, elles sont indépendantes les unes des autres. Et surtout, des fois elles grossissent, des fois elles deviennent un peu plus petites. Mais dans l'ensemble, chaque mois, j'ai la sensation que l'arbre devient toujours un peu plus gros et un peu plus fort. Donc ça ne... J'ai pas spécialement d'échec à ce niveau-là. En tout cas, pour moi, l'échec, il va pas se... dans mon cas, en tout cas, l'échec ne va pas se trouver dans mes revenus. Pour moi, l'échec va se trouver dans les projets que je fais et dans si le projet, je le trouve bien, pas bien, tout ça. Je te donne un exemple. Mes formations sur le design, eh bien, je me suis dit, bon, bah, j'avais ma chaîne YouTube principale qui était sur du design. Je l'ai réorientée justement sur les finances personnelles, l'entrepreneuriat, etc. Et donc, toutes les personnes qui étaient abonnées sur ma chaîne YouTube initialement sur du design, bah, ne retrouvaient pas ce contenu-là, ou en tout cas, trouvaient que c'était du tout... totalement incohérent, ce qui est totalement le cas, hein, totalement incohérent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Atlas Design, où justement l'idée, c'est de faire toutes les vidéos design dessus. Et par exemple, moi je trouve que c'est un échec parce que ma chaîne YouTube principale, donc forcément je fais un gros focus dessus parce que c'est ce qui me permet, donc c'est un gros levier, ça me permet de gagner des revenus assez entre guillemets facilement, parce que là si je fais une nouvelle vidéo, bah, si je fais une nouvelle vidéo avec un programme d'affiliation, et bah, je vais gagner entre guillemets assez rapidement des sous, alors que sur ma chaîne de design, bah, comme elle est beaucoup moins grosse, que j'ai pas des liens affiliés, que je vends uniquement mes formations, bah, forcément l'effet de levier va être beaucoup plus petit, et donc à cause de ça, bah, forcément je publie beaucoup moins sur ma vidéo design, sur ma chaîne de design. Et donc pour moi c'est un échec parce que j'arrive pas à passer du temps dessus, j'arrive pas assez bien à m'organiser. Et au final, juste pour synthétiser tout ça, pour moi mes gros échecs et en tout cas moments de doute, ça va être donc ce que je disais avant, j'ai oublié ce que je disais tout avant sur la partie doute. Ah oui, sur la partie cohérence justement. Donc pour moi ma grosse problématique c'est sur la partie cohérence, et la deuxième c'est sur l'organisation et sur le fait de faire le taf, parce que en fait quand vous êtes entrepreneur, vous avez plein de trucs à faire, en fait vous pouvez faire plein de trucs, et des fois il faut se mettre le coup de pied au cul et c'est très compliqué, et moi j'ai encore beaucoup de mal à faire ça, alors que peut-être de l'extérieur ça se voit pas, peut-être que je donne l'impression que je bosse de ouf et que je suis ultra productif, alors que pour moi je suis pas du tout ça, et je pense que peut-être Quentin toi aussi t'es peut-être un peu comme moi, ou justement t'as peut-être réussi à faire le switch dans ta tête en disant c'est bon, j'ai réussi à être productif, mais moi mentalement j'y arrive pas, tu vois. Pour moi je suis pas productif, je suis limite naze.
Ah non, mais je pense que là la problématique à laquelle tu fais face, 100% des entrepreneurs y font face, et alors je pense que c'est quelque chose qui disparaît un peu avec le temps. Et je dirais que dans la plupart des cas, ça disparaît pas avec ça. C'est pas que ça disparaît parce que justement on a trouvé un problème à la une solution au problème, mais ça disparaît plutôt parce qu'on a accepté le problème. On a accepté le fait que on est des humains, on peut pas être 100% productif. Et effectivement, je te rassure tout à fait. Moi aussi. Alors c'est vrai que sur à travers mes vidéos YouTube, où voilà, je parle un peu de productivité, je montre par exemple comment j'ai monté un projet, une application, etc., etc. Voilà, il faut pas oublier que c'est des projets qui durent entre 24 heures, une semaine, un mois ou plus, qui sont résumés dans une vidéo de 10 à 15 minutes. Donc forcément, on ne peut pas tout dire. Et oui, les moments de procrastination, ils sont là, moi, tous les jours. C'est une question que je me pose tous les jours. Est-ce que j'ai été assez productif et comment je peux faire pour augmenter ma productivité? Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me dis, bon bah voilà, j'arrive à construire un système avec des petites routines le matin, des trucs qui sont pas grand chose. Effectivement, des fois on essaye de se rapprocher un peu de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, où les gens ont une routine toute tracée, de 6h30 à 8h30, ils font ça, ça et ça, et ensuite ils commencent à bosser jusqu'à midi et demi. Bah oui, en fait, je prends ces conseils, je pense qu'il faut prendre ces inspirations-là et puis essayer de construire des petites habitudes petit à petit. Mais en fait, ce sujet-là est vachement intéressant parce que tu nous dis que tu as des revenus qui sont assez passifs, ou en tout cas qui sont décorrélés du temps, de ton temps de travail. Et ça, ça t'ouvre des opportunités incroyables. Tu peux du jour au lendemain te dire, je vais me lancer dans un projet pendant un mois, deux mois, trois mois, et j'aurai quand même un peu de revenus qui vont me permettre de payer mon loyer et de manger à la fin du mois. Ça, c'est hyper important, parce que c'est vrai que quand on corrèle son temps de travail à ses revenus, ce genre de liberté de pouvoir travailler pendant trois mois sur un nouveau projet, comme là tu nous parlais d'une chaîne YouTube secondaire, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément faire. Et là, d'après ce que tu nous dis, malgré tes revenus passifs, malgré le fait que tu pourrais clairement ne pas travailler, je pense, pendant trois mois, et pour autant toujours avoir de quoi payer ton loyer, malgré ça, donc, alors forcément, tu lances des projets, ça c'est parce qu'on a tous le même profil, on fait pas ça pour rester devant la télé toute la journée, ou pour aller à la plage toute la journée, on fait ça justement pour nous dégager du temps et avoir d'autres projets, mais malgré ça, j'ai l'impression que tu as toujours cette frustration de te dire les nouveaux projets que je lance, j'en fais pas assez, ou c'est pas encore un succès, alors que tu sais, je pense, d'après ton expérience, que des projets comme la création d'une chaîne YouTube ou d'une audience à travers des formations, c'est quelque chose qui demande énormément de temps.
Ouais, totalement. En fait, c'est exactement, tu l'as bien résumé, hein. Le mot, c'est frustration. Y a aussi la procrastination, qui est un très joli mot que tout le monde connaît. Et c'est terrible, en fait. Et après, je pense aussi qu'il y a aussi la période Covid qui n'aide pas du tout. Et moi, comme je suis du profil un peu assez extraverti, j'ai besoin de l'énergie des autres pour me nourrir, en fait. C'est ça qui me nourrit. Et le fait de ne pas voir des gens et d'avoir toujours, en fait, la même journée qui se répète, moi, j'arrive pas à faire la morning routine. Je sais pas comment toi, t'as réussi à... Enfin, je sais pas d'ailleurs si t'arrives à être... Est-ce que toi, tu te sens vraiment bien organisé? Est-ce que t'as réussi à appliquer ta morning routine que t'as définie? Est-ce que t'arrives à respecter tes plans? Parce que moi, une des frustrations également qui est assez intense, c'est je fais un plan du jour. Alors, j'essaie d'aller très simple. Tu vois, au début, j'avais essayé de faire un plan de la semaine, beaucoup trop compliqué. Ensuite, je suis revenu au plan du jour en me disant, tiens, aujourd'hui, j'ai 5 choses à faire, super importantes. Et en fait, à la fin, je me rends compte que j'en ai fait 2 super importantes et puis j'en ai 3 super importantes que j'ai pas faites. Et du coup, je suis ultra frustré à la fin de la journée parce que j'ai pas eu le temps. Pourtant, j'ai bien estimé le temps et tout, mais je sais pas, j'ai procrastiné et tout. Et donc, je voulais savoir si toi, t'as réussi à trouver... quelque chose qui te motive tous les jours, ou si t'as réussi peut-être via ta morning routine à corriger ce problème, parce que pour moi c'est pas possible quoi, j'arrive pas.
Alors effectivement c'est très intéressant. Moi disons qu'au niveau de la morning routine, oui on peut appeler ça, en fait moi ma morning routine c'est juste je me lève, une douche froide, un café frappé ou un café, enfin peu importe. En fait je prends toujours la même boisson le matin, je fais toujours les 2-3 mêmes actions, c'est-à-dire que je me lève, je prends une douche froide, je me fais un café glacé avec du lait d'amande à l'intérieur, et en fait le fait d'avoir ces 2-3 actions que je fais complètement de manière mécanique, ça me met, en fait, ça indique à mon cerveau, ok, maintenant c'est l'heure de travailler. Et après, je me mets avec mon café devant l'ordinateur et je démarre un peu tout doucement. Alors, ça, c'est une morning routine, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Mais après, bien sûr, y a des moments où je me retrouve avec mon café, j'ouvre YouTube et là, je tombe sur une vidéo qui m'intéresse, je clique dessus, je regarde une autre, et je me suis installé devant l'ordinateur à 8h30, à 10h30, je suis toujours en train de regarder des vidéos YouTube, alors que je devais bosser, par exemple, sur la prochaine formation que j'étais en train de préparer. Donc, oui, il y a toujours des imprévus, ça c'est normal, mais en fait, le fait de se créer comme ça des petites habitudes qui... j'essaye de travailler... sur le fait de créer des déclencheurs et non pas sur le fait de me dire aujourd'hui je vais travailler 3 heures. Parce que si je me dis tous les matins je vais me prendre un café avec du lait d'amande et du sirop d'érable, c'est un truc qui me plaît rien que d'y penser, là j'ai envie d'en prendre un. Et le fait en fait d'associer ça, ce petit moment de plaisir, je sais pas si on peut parler de récompense parce que là du coup c'est un peu l'inverse, c'est quelque chose que je me donne avant même d'avoir... accompli quelque chose, d'avoir travaillé, mais c'est un message en fait qui dit à mon cerveau, ok, ce moment-là, c'est agréable. Et en fait, je pense à quelque chose que un YouTuber qui s'appelle Ali Abdal, qui est assez connu. Je pense que pas mal de gens qui s'intéressent à la productivité, en tout cas qui consomment du contenu anglophone là-dessus, le connaissent. Lui, il dit souvent effectivement que le problème dans la procrastination, c'est quand on essaye de faire quelque chose qui a des résultats intéressants sur le long terme, mais qui provoque une douleur à court terme. La musculation, c'est difficile à court terme et on obtient des résultats à long terme. Créer une formation, c'est pareil. Créer une entreprise, c'est pareil. Il y a énormément de domaines. En fait, tout ce qui est bénéfique pour nous, que ce soit du sport, du travail, dans tous les domaines, dans quasiment tous ces domaines-là, les bénéfices, on les obtient sur le long terme. Et pour les obtenir, il faut passer par une douleur, entre guillemets. Donc en fait, je dirais que pour essayer de vaincre un peu... Alors, non, je pense qu'il ne faut pas essayer de vaincre la procrastination, mais pour essayer de la limiter, moi, ce que j'essaye de faire, effectivement, c'est d'associer des moments de plaisir à des moments de travail. Donc que ce soit en me donnant une petite récompense avant ou après, ou en essayant de transformer, justement, enfin, de matérialiser... ce progrès sur le long terme qui n'est pas visible justement en temps normal. Je pense notamment à la création de mes formations. Moi, je suis pas trop fan des petites formations. Alors, enfin, je suis très fan, mais moi, j'ai pas envie de créer des petites formations. Moi, je veux vraiment créer des grosses formations qui soient un peu premium où vraiment il y a beaucoup de contenu. Et donc ça, forcément, c'est très long à créer. Et ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de matérialiser mon progrès, parce que je sais que je procrastine beaucoup, parce que tout simplement, je vois pas la fin, en fait. Quand je lance une formation, je commence à faire le plan, je me dis, ok, on va faire ça, ça et ça. Quand je suis au troisième chapitre, je me rends compte qu'il faut détailler ça et ça, ce qui fait que j'ai l'impression que le plan de formation, il s'étend. Et un truc tout bête, mais le fait de compter ses mots, je sais pas, moi, si, alors moi, j'utilise pas Word, mais n'importe quelle application qui permet de compter les mots qu'on a écrits, en fait, le fait tout simplement de se faire un compteur et de se dire, ok, aujourd'hui j'ai écrit tant de mots, ou alors ce matin j'ai procrastiné, bon, je vois que j'ai écrit que 500 mots, je voulais en écrire 2000, bon, bah allez, on va essayer juste d'en faire 500 de plus. Et en fait, le fait de matérialiser sa progression comme ça, ça permet justement de transformer les bénéfices sur le long terme en bénéfices ou plutôt récompenses sur le court terme. Donc je sais pas si c'est quelque chose que t'as déjà essayé d'implémenter, qui n'a pas fonctionné pour toi, ou alors que justement t'as du mal à mettre en place.
Ah, c'est super intéressant ce que t'as dit. J'ai typiquement eu le même problème que toi sur la partie formation, parce que ça fait un an que je dois faire une mise à jour de formation, ça fait un an que je suis dessus, et vraiment je n'en peux plus parce que je procrastine, mais beaucoup trop. En fait, des fois ça m'arrive de faire des sessions de travail de 3-4 jours toutes les 3 semaines, tu vois, et puis ensuite à un moment, j'oublie, et des fois je passe sur autre chose, je fais des vidéos YouTube, machin. En fait, j'oublie, après je reviens dessus, je fais « Oh putain, j'ai pas fini !» Et du coup, t'arrives, et du coup, en plus, quand tu revois ton plan, le pire, c'est que du coup, tu revois ton plan, tu dis, avec du coup du temps, t'as ton cerveau à réfléchir, entre-temps, en arrière-plan, tu dis « Ah putain, mais ça va pas en fait, ou putain, j'ai fait cette vidéo, mais non, je la sens pas, ou c'est pas très cohérent. » Du coup, tu rechanges ton plan au fur et à mesure, mais du coup, ça m'est arrivé de carrément supprimer des sections entières de formation parce que ça me plaisait pas, ou c'était pas très bien fait, c'était pas assez clair. Et donc, tu passes en fait un temps fou. Enfin, moi, j'ai une formation, là, en un an, j'ai dû tourner peut-être 2 heures et demie de la formation, et donc ça doit représenter, je pense, un quart, voire un tiers, on va plutôt dire un tiers, voire la moitié de la formation. Et c'est juste l'enfer, quoi. En fait, pour moi, j'ai juste un truc ouvert en tâche de fond dans ma tête, et donc j'arrive pas à m'en dépatouiller. Et c'est juste un enfer. Et pourtant, j'ai essayé de faire pas mal de choses. J'essayais justement de bien, donner une barre de progression, tu vois, donc bien colorer le plan, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est pas fait, qu'est-ce qui est en cours de montage, et tout ça. Et en fait, j'ai pas de solution à ça. Et franchement, si je trouvais une solution, ce serait pour moi une nouvelle or de 2021. Mais j'ai pas de solution, donc ça, c'est un peu dommage. Et je voulais te demander, donc ça, c'est mon problème du jour. Mais est-ce que toi, tu utilises comment dire, parce que tu me parlais des déclencheurs que je trouvais super intéressant. Donc au lieu de penser à combien de temps j'ai envie de passer à travailler, mais à qu'est-ce qui fait que je vais me mettre au travail, est-ce que tu utilises aussi, parce que je sais que ça c'est quelque chose qui est très efficace sur moi, c'est la pression sociale et c'est de pouvoir m'engager auprès de gens. Alors ça veut pas dire forcément de le faire à son public en disant bon ben tiens, dans ma prochaine vidéo je vais faire ça, en disant ça sur Twitter, parce que là forcément on s'engage, mais après c'est des gens que tu connais pas trop, t'as pas vraiment de compte à rendre à ces gens-là. Est-ce que tu utilises ça avec peut-être un ami, tu vois, avec qui tu discutes beaucoup, peut-être que t'as un autre ami entrepreneur avec qui vous partagez des succès et tout, ou est-ce que t'as comment dire, des groupes de mastermind, tu vois, des choses comme ça où tu vas avoir des points réguliers. Je sais que moi je l'ai pas encore expérimenté, mais c'est quelque chose qu'il faut que je mette en place, tester peut-être un point hebdomadaire, tu vois, où tu dis bon ben cette semaine j'ai fait ça, la semaine prochaine je dois faire ça et ça. Alors déjà en plus on bénéficie de, comment dire, de l'avis de chacun et donc de l'expertise de chacun sur chaque point si on a des problématiques, mais en plus de ça, ça permet de s'engager, et donc comme ça la semaine prochaine, eh bien comment dire, dans la semaine on sait qu'on doit le faire, parce que sinon on va décevoir les gens avec qui on travaille. Et ça, quand on est entrepreneur, on n'a pas ce truc-là, parce qu'en fait, la seule personne à qui on peut décevoir, ben, c'est soi. Et quand on l'accepte, eh ben, au final, ben, on peut facilement se décevoir beaucoup. Donc je voulais savoir si toi, tu utilisais un peu ce procédé-là de pression sociale un petit peu.
Ouais, tout à fait. Alors moi, c'est pas quelque chose que j'utilise. Alors, en fait, la pression sociale, j'essaye de ne justement pas me l'appliquer, parce que je me suis rendu compte que je me mettais déjà beaucoup de pression. Typiquement, je me suis vraiment rendu compte ces derniers mois que mon niveau de bonheur, ou en tout cas mon humeur au quotidien, était quand même vachement corrélé à surtout mes résultats YouTube, un peu également mes résultats financiers, parce qu'ils sont pas vraiment corrélés. Moi, YouTube, c'est une petite partie de mes revenus. Mais ouais, effectivement, je me suis rendu compte que mon humeur, mon niveau de bonheur était très 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 corrélé à mes statistiques YouTube. Et ça, je sais que c'est très mauvais, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et la seule chose que je peux contrôler sur YouTube, c'est la valeur que je fournis et à la limite le nombre de vidéos que je produis. Donc ouais, je dirais que ça, en tout cas, c'est quelque chose que... le fait de partager ces projets avec des autres entrepreneurs, c'est quelque chose que je veux mettre en place, mais plus pour l'aspect conseil, échange, le fait d'avoir un point de vue extérieur sur son projet, parce que quand on a un projet, forcément on a l'impression que c'est une idée parfaite, etc. Mais on voit, il y a énormément de problèmes qu'on ne voit pas, donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut que je mette en place. Mais en fait, je viens de penser à autre chose, qui est un peu lié à ta question. En fait, je prends un exemple typique, la lecture. La lecture, c'est quelque chose sur lequel je procrastine beaucoup aussi, et combien de fois je me suis dit « Ah tiens, à partir de maintenant, je vais lire une demi-heure tous les jours, ou une heure tous les jours, je vais lire un bouquin par semaine ou un bouquin par mois. J'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi, sauf... il y a pas longtemps, en fait, je me suis mis en tête d'essayer de faire une vidéo challenge qui serait, par exemple, j'essaye de lire un maximum de bouquins en un mois, ou au moins un bouquin par semaine pendant plusieurs mois, et ensuite d'en faire une vidéo. Et je me suis rendu compte, enfin, je me suis beaucoup surpris par rapport aux résultats que j'ai eu. C'est-à-dire que je suis allé à la Fnac, j'ai acheté quelques bouquins, et en fait, je me suis rendu compte que à la fin de la première semaine, j'avais déjà terminé, il me semble, deux bouquins. Alors, c'est pas des gros bouquins, mais j'aurais pas eu ces mêmes résultats si j'avais pas pour but, justement, d'en faire une vidéo YouTube. Et en fait, je me dis que... Alors, ça rejoint un peu ta question, dans le sens où là, c'est pas une pression sociale, mais c'est une pression que je me mets, dans le sens où, justement, j'essaye d'avoir un objectif qui est autre que celui juste de lire un bouquin par semaine, ou de lire une demi-heure par jour. Et je pense que, enfin, moi en tout cas, j'ai constaté que à plusieurs reprises ça a marché. Par exemple, un défi que j'ai fait récemment sur YouTube, c'était d'essayer de coder une application en 24 heures. Honnêtement, j'ai fait le plan le matin à 8 heures. Je me suis dit, oula, d'après mon expérience passée, ce genre de truc, j'ai déjà réussi à le faire peut-être en une semaine, ou en deux semaines, en travaillant peut-être 2-3 heures par jour. Mais en tout cas, ça fait un total de plus de 24 heures. Et là, je me suis dit, j'ai cette deadline-là, il faut que, au bout de ces 24 heures-là, j'ai terminé. Et encore une fois, à la fin de ce challenge, je suis pas arrivé à faire tout ce que j'avais prévu de faire, mais je me suis surpris de ce que j'ai réussi à faire en un temps imparti. Et en fait, le fait comme ça, alors je saurais pas
ouais, c'est
comment
le double
résumer
objectif,
ça pour que ça devienne...
En fait, tu te dis qu'il y a un objectif plus grand derrière.
C'est ça. Il y a un objectif plus grand. Alors, plus grand, je sais pas, mais en tout cas, il y a un autre objectif. Et en fait, le fait d'être obsédé par cet objectif-là, ça va justement te forcer à travailler sur le deuxième objectif. Parce qu'a priori, si on procrastine sur un premier objectif, c'est que justement on a cette douleur à court terme et qu'on n'arrive pas à avoir la vision des progrès à long terme. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Enfin, en tout cas, il y a plus agréable, c'est-à-dire qu'on ne procrastine jamais à regarder Netflix ou à scroller sur Instagram. C'est des choses sur lesquelles on ne procrastine jamais parce que ça procure de la dopamine de manière instantanée. Et effectivement, le fait d'avoir ce deuxième projet qui peut-être nous drive plus, ou en tout cas qui nous procure plus de dopamine, je pense que ça peut marcher. Typiquement, pour ce projet de lire autant de pages ou autant de bouquins en un mois, là, en fait, il y avait une matrix directement. Tu vois, c'était combien de temps. Alors, en même temps, j'enregistrais combien de temps. Avec une application, j'enregistrais combien de temps je passais à lire par jour. Mais en tout cas, il y a un résultat qui est beaucoup plus visible, qui est direct, c'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, je voyais que j'avais lu que je venais de terminer un nouveau bouquin. Et je me suis dit, allez, on va en recommencer un. Pareil pour le challenge des 24 heures, c'est tout bête, mais je me suis dit, là, j'ai plus de shots qui viennent d'être filmés, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Alors que si, au contraire, j'avais passé autant de temps à coder, mais sans filmer à côté, j'aurais peut-être moins eu cette matrix qui était le nombre d'heures de vidéos que j'avais filmées en même temps, tu vois.
Ouais, justement. Donc, ça, ouais, t'as un côté aussi, quand tu sais que tu vas, enfin, que c'est quelque chose qui va être utilisé ou vu par quelqu'un, ou tu vois, quelqu'un d'autre pour y accéder, déjà, ça te paye pas forcément de la pression, mais en tout cas, tu vas avoir, c'est sûr, une qualité différente, mais même sur tous les aspects. Tu vois, si par exemple, t'es juste chez toi, tu vas avoir tendance sur probablement, tu sais, imaginons, t'es juste chez toi, tranquille, et t'as personne, t'es tout seul, t'auras tendance probablement à t'affaler sur ta chaise ou un truc comme ça. Alors que si par exemple, t'as quelqu'un que tu connais pas, tu vas te tenir droit, tu vas être concentré, tu vois. C'est des trucs cons, tu vois, mais j'ai un peu l'impression que justement, alors je mettrai pas ça dans la catégorie pression sociale parce que au final, quand on le fait, on ressent pas vraiment de pression, tu vois, ça devient naturel parce que c'est juste être. Comment dire, avoir une bonne tenue ou juste être actif mentalement. Si par exemple t'es avec quelqu'un en rendez-vous pro ou machin, tu vas pas scroller sur TikTok et tu seras pas t'auras pas de manque en te disant tiens j'aurais pu scroller sur TikTok machin. Et j'ai un peu cette sensation là que quand c'est un peu vu par quelqu'un ou que t'as un peu ce côté on va dire pression sociale, tu vois, ça peut être lié en fait, l'engagement, je trouve que le s'engager à faire quelque chose, ça crée là pour le coup, ça crée de la pression sociale. Mais si tu sais que tu vas être vu ou regardé, ou que c'est ton activité ou ton travail va être consulté, je pense pas que ce soit aussi fort que ça. Mais ça quand même, ça procure justement cette aide qui permet d'être beaucoup plus proactif, je pense.
Ouais, tout à fait. Et ouais, non, mais ça, je suis clairement d'accord. Et ouais, je pense qu'on peut appeler ça de la pression sociale. Après, en fait, il faut soit justement aller la chercher en bossant avec des amis, des collègues, en allant dans des espaces de coworking. Moi, je me rappelle entre les deux confinements, une journée où je suis allé dans un espace de coworking. Je suis arrivé le matin, j'avais payé 25 euros pour la journée. C'était 25 euros entre l'ouverture à 9h et à 18h. Le midi, j'ai pas pris de pause, je suis sorti à 18h. Parce que voilà, je me suis dit, ok, j'ai cette espèce d'engagement où j'engage mes 25 euros, je vais essayer de les rentabiliser au maximum. Et en même temps, je suis là, au milieu de personnes qui sont en train chacun de bosser sur leur business, on n'a même pas parlé. J'ai même pas... le seul mot que j'ai échangé de la journée, c'était à la barista pour lui demander un café. Mais effectivement, ça engage, on se met dans un environnement qui... ajoute un peu de pression sociale, effectivement, en tout cas qui nous procure une sensation différente quand on réussit à faire ce qu'on avait prévu de faire. Donc après, voilà, c'est soit on va la chercher de l'extérieur, soit on se met cette pression à l'intérieur, en se mettant, en se proposant des défis, en mesurant notre travail, etc. etc. Ouais. Quoi.
Et alors du coup, je me posais aussi une petite question, je voulais savoir ce que t'en pensais, toi. Je réfléchissais à peut-être déléguer une partie de mes tâches à un stagiaire. Alors, c'est un rapport dans le sens productivité, où souvent je vais faire des tâches qui vont être assez, pas rébarbatives, mais qui vont être très facilement automatisables, en tout cas qui sont systématisables. C'est-à-dire qu'une fois que je documente mon process, donc par exemple si je dis si j'explique dans un document comment est-ce que moi j'écris un titre de vidéo YouTube, bah, quelqu'un un peu n'importe qui, hein, vraiment en lisant ce document pourrait savoir comment écrire un titre de vidéo YouTube, ou par exemple je pourrais faire la même chose pour une miniature, j'explique comment je fais une miniature, bah, lui pourrait créer une miniature je pense sans trop de difficultés. Et je pense que pour une grosse partie de mon travail, y a pas mal de choses que je pourrais justement systématiser. Et donc je me disais, pourquoi pas recruter un stagiaire. Et je voulais savoir si toi, tu avais déjà eu l'idée et si tu avais déjà testé, et savoir si tu avais un retour dessus ou pas, quoi.
Alors moi, recruter un stagiaire ou en tout cas bosser, enfin déléguer et bosser avec quelqu'un, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment fait. Alors disons que j'ai eu une ou deux expériences, voilà, où par exemple j'embauchais un freelance pour un logo, un design, mais jamais vraiment sur le moyen à long terme, ou en tout cas j'ai jamais embauché quelqu'un pour faire plus d'une tâche. C'est quelque chose auquel je pense pas forcément, dans le sens où c'est vrai que la plupart de mon travail c'est un aspect, enfin voilà, il y a cet aspect créatif qui me plaît, voilà, effectivement. Faire le montage, ça me plaît. Ça pourrait être complètement délégué, mais pour l'instant, ça me plaît. C'est vrai qu'à certains moments, je me dis, ah, j'ai quand même passé beaucoup de temps sur ce montage, j'aurais pu peut-être faire autre chose. Donc, je pense que ça va bientôt venir, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai pas encore expérimenté. Mais par contre, je pense que ça peut être très intéressant. D'une part, parce que automatiser ou en tout cas déléguer des choses qui sont systématisables, comme tu le dis, après les avoir documentées, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique parce que on va justement gagner du temps. Mais en plus de ça, en plus du fait de gagner du temps sur les choses que la personne avec qui on travaille va faire, c'est quelque chose que nous on n'aura pas à faire. Mais en plus de ça, je pense que ça, on revient un peu sur cette idée de pression sociale, dans le sens où, à partir du moment où on travaille avec quelqu'un, parce que bon, voilà, quelqu'un qui travaille pour nous, bah, il travaille avant tout avec nous, donc on travaille également avec lui, ça va justement nous obliger à être plus productifs, parce que peut-être que je vais avoir justement des documents à lui fournir, peut-être que je vais devoir bosser en même temps sur quelque chose, alors que lui est en train de bosser sur autre chose. Mais du coup, en fait, c'est un peu une espèce de je sais pas comment on appelle ça, mais de concours bienveillant.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah après, cette collaboration, en effet, c'est en fait, le mot pression sociale est, je pense, trop négatif. Enfin, il est trop connoté négatif. Et il faudrait trouver un mot qui dit ça te met au travail, mais sans que ce soit négatif, tu vois. Bah en gros, je pense que ce serait ce cadre-là où ce serait ça te permet d'être actif, mais comment dire, de la bonne manière, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est utiliser les faiblesses psychologiques qui est, on va pas se le cacher, hein, notre plus grande faiblesse, je pense que c'est la comparaison. On se compare tous aux autres. Et c'est bien pour ça que les réseaux sociaux nous mangent autant de temps. On se compare tout le temps aux autres. Bah, là, en fait, justement, c'est utiliser ce problème qu'on a en nous, cette faiblesse, justement, à bon escient. Et je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait au début, qui est de se dire, bon bah ok, j'accepte ce que je suis, j'accepte ma procrastination. Là en fait, ça revient à ce qu'on disait au début, dans le sens où on accepte les problèmes qu'on a, et on fait avec, et justement on fait avec, on voit comment on peut faire avec, pour atteindre ses objectifs, pour augmenter sa productivité, quoi. Donc voilà. Bah écoute, je pense qu'on pourrait encore discuter pendant pas mal de temps. Là, je vois que ça fait déjà à peu près une heure qu'on discute. J'aimerais te poser une dernière petite question. Est-ce que tu as eu pendant ton parcours entrepreneurial des inspirations particulières, que ce soit des bouquins, des films éventuellement, ou tout simplement des personnages, mais en tout cas des inspirations qui t'ont aidé soit à faire grossir ton business, ou alors au contraire qui t'ont aidé dans les moments où ça n'allait pas et que tu aimerais partager aux auditeurs.
Alors je pense que j'ai pas eu de mentor comme la plupart des gens ont, où c'est vraiment une vision très idyllique qu'ils aimeraient avoir, enfin qu'ils aimeraient être. J'ai des gens que j'aime beaucoup leur contenu. Je prends souvent un exemple, Antoine BM, je trouve que justement il est très cohérent dans ce qu'il fait, tu vois. Il a sa manière, en fait il a toujours resté vraiment, j'ai l'impression, vraiment droit sur son rail. Et sur sa manière de penser, j'ai cette sensation qu'il est vraiment très voilà, qu'il est vraiment entre guillemets droit dans ses bottes, et qu'il a jamais trop switché de thématique, des trucs comme ça. Et du coup, moi je trouve que c'est vraiment super cool de ce point là et puis forcément bah il a un super succès entrepreneurial, donc forcément ça fait vachement rêver. Après je réfléchis, est-ce que j'ai des gens qui m'ont inspiré vraiment? Je pense pas, je pense que c'est un mix d'un peu de tout. Je sais que je suis très fan de l'acteur américain The Rock, parce que c'est quelqu'un qui justement, le mec est parti de zéro, et puis il a monté quasiment, enfin c'est vraiment, c'est plus qu'un truc de ouf, c'est un empire le truc. Il a créé une marque de tequila, il a créé, enfin il est partenaire avec une super marque de vêtements, il a fait des films à des centaines de millions de budget, enfin c'est le mec, c'est vraiment le rêve américain. Et je trouve qu'il est quand même super charismatique et tout. Enfin bref, c'est un mec qui m'inspire vachement. Après, je sais que c'est loin de la vision que moi j'aimerais avoir du succès, mais comment dire, c'est quelqu'un qui m'inspire parce que il respire l'entrepreneuriat et un peu cette vision-là que moi j'aime bien. Et après, je pense que c'est un mix de tout. Je pense que c'est un mix de plein de gens que je suis. Mais c'est principalement des gens sur YouTube, c'est principalement des YouTubeurs. Dans les finances personnelles, les trucs comme ça. Non, j'ai pas de visage particulier, ni de livre particulier en tête non plus. Ce qui m'a beaucoup impacté, moi je suis quelqu'un de très cinéphile, donc moi j'aime beaucoup les films. Et les films qui me touchent beaucoup, qui m'inspirent beaucoup, il y a Le Loup de Wall Street, qui est c'est genre The Référence, mais qui pour moi vraiment est excellent. T'as aussi Limitless, que j'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas s'il y a d'autres films qui m'ont bien plu. Je pense que ces deux-là, ça reste dans mon top 2. Après, il y a Tron, le Legacy. Mais du coup, ça, c'est juste des films que j'aime bien, en fait. Donc, c'est pas vraiment des trucs d'inspiration. C'est des très bons films, hein. Allez les voir si vous les avez pas vus. Non, j'ai pas vraiment d'inspiration. C'est un mix de tout ça. Je dirais Antoine BM principalement côté français, et ou peut-être The Rock, Kevin Hart aux États-Unis. C'est ces personnes-là. Voilà.
Ok, effectivement, c'est déjà pas mal. Et puis je pense aussi que ça dépend. Enfin, moi, je me rends compte que mes sources d'inspiration dépendent aussi de mes projets actuels, de mon humeur actuelle. Donc voilà, ça varie aussi, quoi.
C'est ça. En fait, tu vas avoir une inspiration dans chaque thématique, dans la thématique business, dans la thématique personnelle. Et puis, au final, en fait, les gens qui m'inspirent le plus, je pense, c'est surtout de discuter. En fait, moi, ce qui m'apporte le plus, c'est pas vraiment le fait d'avoir un mentor, c'est surtout d'avoir des échanges, et des échanges riches. Et en fait, moi, je les trouve où, ces échanges-là? C'est en discutant avec d'autres entrepreneurs. Pour moi, ça, c'est là où j'ai le plus d'échanges riches. Après, je vais avoir sur des forums de discussion. Enfin, je pense qu'on sous-estime vachement les forums de discussion, mais il y a plein de forums sur Internet. Quand je parle de forums, c'est vraiment à l'ancienne époque, hein. C'est vraiment, il y a des topics, on va scroller dedans, tout ça. Et des fois, il y a des forums, mais franchement, les mecs, tu te dis, mais ça devrait être un forum payant à 100€ par mois, parce que le truc, c'est rempli d'informations, les mecs sont super intéressants, ils te font des messages concis et tout. Et ça, c'est des trucs, pour moi, c'est vraiment des mines d'or d'informations. Et donc après, ça existe sur un forum. Après, il y a plein de Discord aussi qui permettent d'échanger avec d'autres entrepreneurs ou d'autres. Ça peut être sur d'autres thématiques. Ça peut être des investisseurs immobiliers, ça peut être des développeurs. Je pense que pour plein de développeurs, par exemple, les Discord du type Discord de Graphic Art ce type-là, c'est vraiment très très intéressant. Même le Discord, le forum de Graphic Art, je pense qu'il est très enrichissant pour les personnes qui le visitent. Et pour moi, c'est là où je vais tirer la plus grosse valeur des relations que je vais avoir, contrairement plutôt au mentor, parce que le mentor, en fait, je vais pas avoir d'échange. Donc, moi, je pense que le plus, comment dire, le plus valuable, c'est quand tu vas avoir un échange, qu'il va y avoir un... alors le mieux, c'est un débat, mais enfin le débat, c'est un peu une confrontation d'idées, alors que l'échange, c'est plus qu'est-ce qui est le mieux, on va poser des questions, on va trouver des réponses, et je trouve que c'est plus ça qui m'intéresse. Donc moi, c'est plus où est-ce que je peux trouver des échanges intéressants.
Ouais, tout à fait. Ok, top. Bah, en tout cas, merci Axel, merci pour ton retour d'expérience, merci pour cette discussion vachement enrichissante, je trouve. J'espère que ça aura plu à pas mal de nos auditeurs. Merci à toi, et puis peut-être à bientôt hein, sur un nouvel épisode du podcast, parce que je pense qu'on a encore pas mal de choses à se dire, et puis voilà, les projets évoluent, les projets grossissent, donc ce serait avec grand plaisir de te recevoir dans un prochain épisode.
Bah, avec grand plaisir, et merci à toi pour l'invitation, c'était super cool.
Merci, salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec une note et un commentaire, ou même à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute, et moi je vous dis à la semaine prochaine.